Les dîners singuliers. C'étaient de curieux dîners que donnait chaque semaine la princesse de Termian. Une haute grille fermait de ses lances d'or l'entrée de l'altière demeure. On voyait au loin, du fond de l'avenue qui menait, la robuste ferronnerie crisper sa défense ornementale et dresser l'arrogance de son portail. Des fleurs forgées enguirlandaient les montants et s'épanouissaient au fronton, d'où, comme un double fruit de cristal et de bronze, deux vastes lanternes se gonflaient, chacune au bout de sa chaîne. À cette grille s'arrêtaient les voitures des visiteurs. Là, il fallait descendre. Aucune roue ne rayait jamais le sable de l'immense cour déserte comme une grève, et que voletoutaient, çà et là, l'écume éparse de quelques mousses. Une porte basse donnait seul accès à l'intérieur. Au beau temps, les invités traversaient à pied l'espace sablé, sinon ils trouvaient là une chaise avec des porteurs. Personne n'enfreignait jamais cette consigne. La façade du palais sommeillait sous la clôture de ses persiennes. Les hirondelles griffaient de leur vol aigu la masse grise de l'édifice. La partie qu'habitait la princesse se trouvait à l'opposé, sur les jardins, et n'occupait qu'un coin de l'hôtel dont le reste demeurait vide. Elle y vivait fort seule, le prince résidant à l'étranger. On me l'avait montré une fois au bain de Lorden, où il venait guérir aux fontaines l'humeur que lui montait au visage en âcre rougeur. C'était un petit homme, maigre et chafouin, bizarre en tout, nerveux et d'une taille exiguë que barrait le cordon d'un ordre qui ne quittait jamais. Se plaisant à cette société dont il ignorait la langue et où on le recevait en considération de son haut état, il y promenait sa morgue et son mutisme avant de retourner à sa villa de Thermie, d'où il ne sortait guère que pour ses cures annuelles et de rares voyages auprès de sa femme. Chaque fois, il n'y passait que quelques heures. La princesse le recevait dans les grands salons du palais ouverts à cette occasion. Toujours, il repartait avant la nuit. Alors, les salons se refermaient. Les embrasses dénouées laissaient retomber les lourds rideaux, les portières pendaient roides dans leurs plis retrouvés, les teignoirs étouffaient les bougies, les nombreux domestiques apparus pour la circonstance disparaissaient aussitôt et rentraient dans les communs où ils demeuraient, quelques-uns suffisant seuls au service ordinaire. Les jets d'eau du jardin, qui avaient lancé leurs fusées prismatiques, se taisaient l'un après l'autre, et dans la cour, au lieu de l'éclat des livrées, on ne voyait plus que le vieux jardinier ramassant une feuille du bout de son râteau ou taillant les boules pomponnées des orangers nains qui s'étageaient aux marges du perron. C'est dans cette demeure redevenue silencieuse, après la parade de ses arrivées et le cérémonial de ses départs, que la princesse recevait chaque semaine le peu de personnes qui formaient son intimité. Elle vivait pourtant moins solitaire que retirée, ne manquant pas, à certaines grandes fêtes, de s'y montrer en l'élégance de sa beauté, avec le sourire et la hauteur nécessaires pour décourager la familiarité en acquiesçant néanmoins des usages auxquels satisfaisait la faveur de sa présence. Passée cette condescendance, sa vie se renfermait. La curiosité même en avait admis le secret sans plus chercher à le pénétrer. On en parla dans les premiers temps de mon séjour, et si le hasard des rencontres ne m'eût mis en relation d'abord de courtoisie, puis peu à peu d'amitié avec un des convives de ces dîners mystérieux, jamais je n'aurais pensé à pouvoir souhaiter d'y être admis. Mon ami ne manquait jamais de s'y rendre et rien ne le détourna une fois de son assiduité. Au soir dit, chacun arrivant, me racontait-il, quand je l'interrogeais sur le rituel de ce culte singulier, descendu à la grille et la cour traversée, trouvait au vestibule un vieux valet à cheveux blancs, et chacun recevait de lui une petite lampe allumée. Sans que personne accompagnât le visiteur, il se dirigeait vers l'appartement de la princesse. Le trajet, long, se compliquait d'un entrecroisement d'escaliers et de corridors. Les pas sonnaient sur le passage des paliers où les mosaïques des galeries craquaient au parquet des grandes salles ou s'amortissaient au tapis des salons. Il fallait écarter des draperies, pousser des portes, manier des serrures. La lueur de la petite lampe éclairait des files de statues et des rangées de bustes, le sourire d'un marbre ou la gravité d'un bronze, une nudité ou une attitude. La lumière, au passage, bombait la panse d'un vase, éveillait la dorure d'un meuble, scintillait au cristal d'un lustre. Des couloirs vides aboutissaient à des rotondes désertes et de marche en marche, de porte en porte, on arrivait enfin à l'appartement de la princesse de Termiane. Le jour où je devais y être introduit, je me rendis d'assez bonne heure chez mon ami M. Dorscamp. Il avait obtenu que je prisse à la table de la princesse la place qui laissait libre son départ. Il partait le lendemain, ses bagages encombraient le vestibule. Les écuries ouvertes, les domestiques congédiés, tout l'hôtel prenait déjà un air d'abandon. Je cherchais, dans ce camp, d'étage en étage, j'allais descendre au jardin, pensant l'y rencontrer, quand un refrain de cornemuse me guida vers le haut de la maison. Je parvins aux mansardes et, poussant une porte, je le découvris dans une petite chambre démeublée, accroupie sur le carreau et soufflant dans une musette laissée là sans doute par quelque drôle de la valetaille. Il ne m'entendit pas venir et continua d'enfler l'outre obèse d'où il tirait une mélodie rauque. À ma vue, il se leva, jetant l'instrument, qui se dégonfla avec un soupir plaintif. « Oh, je me prépare au voyage, me dit-il. Demain, la voiture me conduira jusqu'à la côte. Un bateau me traversera la mer et je reverrai le manoir natal. Jamais, peut-être, ajouta-t-il. Je me sentirais la force de partir sans ce vieux pipeau et sa pauvre musique. J'y ai revu mon pays, ses landes grises et roses, ses bois, ses grèves, la danse sur l'herbe battue, le teint des filles, le visage des garçons. J'ai respiré son odeur de sucre et de sel, fleurs et algues, abeilles et mouettes. Oh, une fois là-bas, tout cela me paraîtra insipide. Quel ennui fera-t-il de moi, un maniaque comme le prince de Termiane? Vous le connaissez, vous savez sa vie à Terni. Oh, c'est une ville sinistre, immense, avec des palais abandonnés, ses hôtels en ruine parmi de verdâtres jardins marécageux, ses ruelles inextricables, son parfum de fièvre et d'eau. Mais c'est là qu'il trouve le seul divertissement qui lui plaise. Il chasse le chat. Oh, ces animaux y pullulent. On les voit errer, ça et là, à demi-sauvages, s'étirant sur la crête d'un mur, dormant au soleil parmi les pierrailles. La nuit, il miaule furieusement. Monsieur de Termiane en a tué des milliers. Il s'embusque pour les surprendre, les guette et les abat. Plaisir singulier. Ils sont peut-être les marionnettes de quelque tragédie visionnaire. leur petitesse sauvegarde leur férocité et la mimique de leur agonie évoque des masques terribles. Qui sait? Toute vie est inexplicable. L'empreinte du revers ne se devine pas à la face de la médaille. On ne voit dans tout miroir que l'inverse de ce qui s'y mire. Quant à la princesse, ouf, que vous dirais-je? Vous en saurez davantage, et s'il vous faut partir comme moi un jour, vous comprendrez mon angoisse et pourquoi je tremble à l'idée de cette séparation. En pensant que je ne verrai plus la grille, le vestibule, les vastes salles, que je ne tiendrai plus à la main la petite lampe qui faisait ramper mon ombre à mon côté. Il y a des choses merveilleuses dont on ne se guérit jamais. L'heure s'avance, venez, car il convient d'être exact. Nous avions déposé nos lampes que nous éteignîmes. Cinq personnes se trouvaient réunies déjà dans le salon où la princesse vint au-devant de nous. Je m'inclinai sur sa main que je baisais. Aussitôt, elle prit mon bras et nous passâmes à table où elle me fit signe de m'asseoir en face d'elle. Norskamp prit place à sa droite et les autres convives se disposèrent à leur guise. Je profitai du premier silence pour regarder autour de moi. Le plus âgé des convives se nommait Monsieur de Berve. Il habitait à un château des environs et passait pour fort savant et versé dans les sciences hermétiques. Son voisin, dont j'ignorais le nom, que j'appris ensuite, était un étranger retiré ici après de longs voyages maritimes. Il en avait rapporté des armes, des algues et des coraux. Je connaissais les deux autres, genre d'esprit et de qualité. Le dernier et le plus jeune paraissaient presque adolescents, mais l'âge de sa figure contrastait avec sa chevelure précocement blanche. Le repas fut exquis en viande, en fruits et en vin, embelli par le luxe des argenteries et la perfection des porcelaines. Deux vieux valets veillaient au service. Une corbeille où des fleurs rares entouraient un bloc de glace parfumait la pièce de sa fraîcheur, et de hauts candélabres de vermeil, un à chaque bout de la table, dressaient l'architecture de leurs bougies. Peu à peu, la conversation s'engagea. Chacun des interlocuteurs y prit part avec sens et verve. La princesse écoutait attentivement. Ses cheveux relevés droit sur le front se massaient à l'arrière de sa tête. La beauté du visage consistait dans sa forme, la courbe du nez, la ligne exquise de la bouche et surtout en des yeux admirables. On finissait et je remarquai que l'attention des convives consultait une horloge fixée au mur. Le balancier battait avec régularité. Les aiguilles en conjonction se désunirent et 1 heure sonna dans le silence qui se vit autour d'elle. Le dernier coup vibra longtemps. Danskamp s'était levé et en même temps que lui toute la table. La princesse tenait immobile, debout aussi, un verre à la main. J'entendis le tintement de ses bagues contre le cristal. Elle tremblait. Danskamp, très pâle. Elle avait porté la coupe à ses lèvres et la lui tendit. Il acheva. Adieu, lui dit-elle quand il eut bu. Adieu donc. Vous partez, il le faut. Oh, je ne chercherai pas à vous retenir. L'heure a sonné, toute heure sonne. Gardez en souvenir la petite lampe qui vous servait à venir vers moi. Qu'elle veille à votre chevet. Faites-la placer dans votre tombeau. Adieu. Que la lumière soit avec vous. Danskamp s'inclina une dernière fois devant la princesse, serra la main à chacun de nous et disparut par la porte qui resta ouverte. Nous entendîmes descendre l'escalier, puis un bruit de cristal qui se brise et, quand je sortis à mon tour en compagnie du jeune homme à cheveux blancs, nous trouvâmes, au bas de la dernière marche, sur la pierre où leurs miettes craquèrent sous nos pas, les débris de la petite lampe de verre. Par un assez bizarre usage dont la princesse me fit part quand je la quittais, chacun de ses convives du dimanche ne manquait pas à venir, seul la visiter un des soirs de la semaine. Comme je me trouvais le dernier venu, mon tour fut porté au samedi. Norskov, dans nos causeries sur la singulière femme, m'avait averti de cette singularité de son caprice et de la façon dont se passaient ses entrevues. Madame de Termian recevait à la tombée du jour, plus ou moins tard, selon la saison. Elle se tenait dans une pièce en rotonde éclairée, à travers les parois vitreuses d'une lumière diffuse. C'était de longues heures d'entretien, comme avec une ombre vivante. Mon ami m'avait fait des récits passionnés de ses aventures intellectuelles qui se prolongeaient souvent jusqu'à l'aube. On se sentait en présence d'un être mystérieux en qui parlait une voix inconnue dont on restait à jamais anxieux. Sans s'expliquer sur la nature de ces oracles, il me laissait entendre que leur beauté dépassait l'humain et liait à jamais au désir de les réentendre de nouveau et toujours. Et l'approche et la promesse de cette divinité secrète me faisaient attendre impatiemment l'heure de mon accès à cette Éleusis révélatrice. Tout en subissant à mon tour la fascination commune qui avait réuni autour de Madame de Termian ce que son apparition au seuil attirait dans la grotte de sa solitude et de ses mystères, j'en discutais avec moi-même les dangers. Elle me semblait la fleur éclose à l'entrée des voies souterraines et périlleuses. Elle me paraissait la fissure vers l'au-delà, par où s'engouffrent les âmes imperceptiblement et furieusement, la sorcière admirable qu'on n'exorcise plus. Je respirais la cavité de la spirale magique. Toute la semaine, je fus inquiet et énervé. L'insomnie m'épuisa. Une grande fatigue m'accablait. Enfin, le jour attendu arriva. Dès le matin, je le pressentis interminable. Pour me distraire de mes pensées, je sortis de la ville et j'errai dans la campagne. L'été finissait. J'allais le long de la rivière. Elle coulait verte et fluide sur de longues herbes inclinées. Je la suivis. Elle passait non loin du palais de Madame de Termian et l'idée me vint de rôder alentour. Mais, arrivé au bout de l'avenue qui mène à la grille, je m'arrêtai et je m'assis sur une borne de pierre. Il me sembla que le crépuscule se faisait tout à coup. Le vieil hôtel dressait sa masse grisâtre. Je m'entendis sonner à la grille. Le sable de la grande cour criait sous mes pas. Je me voyais et je m'écoutais. Personne au vestibule. J'allumai la petite lampe qui m'était réservée. J'examinais les tailles de son cristal noir à veine rose. Toutes les portes s'ouvraient d'elles-mêmes devant moi. Les galeries retentissaient d'échos lointains. J'arrivais aux appartements de la princesse. J'appelais. Le salon vide me laissait à la rotonde sibylline dont m'avait parlé Dorpskamps. Je fouillais jusqu'au moindre recoin. Mon soin fut inutile. La nuit vint. Je me vis la lampe à la main dans un miroir. Il me semblait reconnaître dans cette image de moi-même quelqu'un que je devais suivre, le guide fraternel de mon rêve. Nous visitions, pièce par pièce, l'immense palais. Oh, je m'y perdis, je m'y retrouvais. La poussière des combles succéda au salpêtre des caves. Ma lampe s'éteignit. J'errai à tâtons pendant des heures interminables. Enfin, la ténèbre grisonna. Une ligne blanche filtra sous une porte. En me dirigeant vers ce côté, mon pied heurta un objet. Je le ramassai. C'était une masse lourde et froide. Du genou, je poussai le battant de la porte qui s'ouvrit, et la lumière blanche de l'aube éclaira entre mes mains la tête de marbre d'une statue. Elle souriait et ressemblait à Madame de Thermian. Je la regardais et peu à peu je la sentis s'alléger et se fondre entre mes doigts, où elle ne laissa qu'une légère poussière qu'un vent léger dispersa. J'écrivis à Madame de Thermian le rêve que j'avais fait d'elle et qui m'avait tenu endormi jusqu'au matin en face de son palais. Elle ne répondit jamais à ma lettre. Et je ne cherchais pas à la revoir. Son souvenir m'est resté beau d'avoir entrevu son visage, ou sans doute celui même de la beauté.